Et voici la revue de presse internationale de Camille Magnard que je salue. Bonjour Camille.
Alors bonjour.
Que revoilà l'interminable feuilleton du Brexit au sommet européen de Bruxelles. Les leaders des 27 ont, paraît-il, sifflé la fin de la récréation. C'est ça qu'il faut
les
dire.
Les Européens ont repris les choses en main, veut croire ce matin Der Spiegel en Allemagne. En tout cas, ils ont remis des dates à l'encre rouge dans l'agenda devenu illisible, il faut bien le dire, du Brexit. On se tourne, comme à chaque fois qu'on essaye d'y voir clair dans la politique européenne, vers les analyses du site Politico, où l'on comprend donc que les 27 ont accepté hier de repousser l'échéance du Brexit, comme le demandaient les Britanniques, mais pas aussi loin toutefois que l'espéraient les Britanniques. La deadline, en bon français, ce sera le 22 mai, soit une semaine avant les élections européennes. Mais parce que ce serait trop simple et que le Brexit ne nous a pas habitués à ça, avant le 22 mai, il y a une autre date décisive, celle du 12 avril. Les députés britanniques doivent donc, avant ce jour-là, avoir voté à nouveau sur le projet d'accord de sortie de l'UE. Ce sera le troisième vote pour ceux qui n'ont pas suivi. Si les députés votent oui à l'accord, alors le Brexit se déroulera selon les termes de cet accord le 22 mai. Et s'ils rejettent le texte une troisième fois, ce qui n'est pas exclu à ce jour, alors le divorce sans accord, le no deal Brexit, sera effectif dès le 12 avril. Ouf, je vois que vous vous tenez la tête entre les mains,
bon,
Guillaume,
écoutez,
depuis que j'ai prononcé ce mot de Brexit.
Grand chose, mais bon,
alors si on devait résumer,
si
on veut résumer ces nouvelles avancées bruxelloises avec les formules imagées de la presse d'outre-Manche, on dira, citant le Financial Times, que désormais Theresa May et les 27 en sont à négocier non plus sur les modalités du Brexit, mais sur les réglages de la guillotine. Je passe rapidement sur la une du Times qui nous refait le coup du « cette fois, c'est vraiment la dernière chance pour Theresa May ». Et j'en termine sur notre dose quotidienne de casse-tête britannique avec justement l'overdose, la saturation qui s'affiche sur la première page du tabloïd The Daily Star avec ce jeu de mots désespéré. Espéré en grand titre, Give us a Brexit, soit, excusez mon anglais, lâchez-nous la grappe avec le Brexit. Le Star ne demande pas grand-chose, juste une journée sans qu'on rebatte les oreilles de toute une nation exaspérée avec les manigances sans fin du Brexit. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur l'état d'esprit des Britanniques, alors je propose qu'on parle d'autre chose.
Alors, en l'occurrence du Nicaragua, où le président Daniel Ortega a dû céder cette semaine face à l'opposition qui dénonce l'intense répression dont elle est victime depuis près d'un.
Oui, on se souvient au printemps dernier de cette vague de contestation massive qui s'était emparée du pays d'Amérique centrale, berceau du sandinisme dont se réclame le président Ortega, mais dont il s'est politiquement, franchement, éloigné depuis des années. Des semaines de manifestations et une campagne de répression ensuite qui avait causé la mort de 320 personnes au bas mot et jeté des centaines d'opposants dans les prisons du Nicaragua. Alors il y a quelques semaines, sous l'égide du clergé catholique et sous la pression des milieux d'affaires de son pays, Daniel Ortega a consenti à un fragile dialogue national qui a donné des résultats cette semaine. El País, édition sud-américaine, nous rappelle que ce dialogue était au point mort. En début de semaine, l'opposition refusait de revenir à la table des négociations après qu'une manifestation samedi dernier à Managua avait été violemment dispersée, des dizaines de militants arrêtés. Ortega, lui, se montrait inflexible sur la principale revendication de ses opposants, la libération des prisonniers politiques qui seraient environ 820. Mais le président a finalement dû avaler son chapeau et mercredi soir, nous confirme El País, il promet de vider ses prisons sous 90 jours. Le quotidien espagnol raconte bien sûr la joie des familles de détenus après cette annonce et il nous explique que ce sont sans doute les sanctions internationales imposées par les États-Unis et qui visent l'entourage du président, à commencer par sa femme et vice-présidente Rosario Murillo, qui ont fait changer d'avis le couple présidentiel. En Colombie, El Espectador nous apprend qu'hier, le Nicaragua a également été ajouté par la Commission interaméricaine des droits de l'homme à sa liste noire, une liste où l'on retrouve également Cuba et le Venezuela. Ce qui se passe en ce moment à Caracas n'est sans doute pas sans lien avec la soudaine volonté de négocier du président nicaraguayen.
Et puis aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée au modèle noir, une exposition dont nous sommes partenaires au musée d'Orsay. Et tandis que s'installent nos invités, Cécile Debré, directrice du musée de l'Orangerie et co-commissaire de cette exposition, le modèle noir, et l'historien Pape Ndiaye, qui est professeur d'histoire à Sciences Po et conseiller scientifique de l'exposition. Vous voulez évoquer, vous, la situation d'un mouvement, un mouvement lié à la question du racisme anti-noir, la question d'un mouvement intitulé Black Lives Matter à Ferguson, cette ville du Missouri aux États-Unis, où s'était affirmé le mouvement Black Lives Matter. Eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses.
Et oui, c'était en 2014, hein, ce mouvement, après la mort d'un jeune noir américain de 18 ans, Michael Brown, tué par un policier blanc, plusieurs nuits de colère et de violence à Ferguson. Et comme se le remémore l'agence Associated Press, un moment particulièrement fort pour Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, mouvement de dénonciation d'une forme de racisme systémique dans la société, particulièrement dans la police des États-Unis. 5 ans plus tard, donc, les journalistes d'AP sont retournés à Ferguson, alarmés par une inquiétante série noire. Ils se sont rendus compte que 6 des activistes les plus engagés, les plus identifiés des émeutes de 2014 étaient morts les uns après les autres, de morts violentes ou plus ou moins inexpliquées. 2 ont été retrouvés morts dans leurs voitures incendiées. Pour 3 autres, la police a conclu à un suicide, 2 par balle et 1 par pendaison. Et le dernier a été retrouvé inconscient dans un bus avec une dose mortelle dans le corps de fentanyl, un opioïde 40 fois plus puissant que l'héroïne. La police, la justice ne font aucun lien, a priori, entre ces 6 décès, mais la communauté afro-descendante de Ferguson se pose vraiment des questions. L'enquête d'Associated Press nous les fait entendre, ces questions, comme elle nous fait partager l'atmosphère toujours extrêmement lourde qui règne dans la ville du Missouri. De nombreux activistes de Black Lives Matter expliquent qu'ils vivent depuis 5 ans dans la peur, les menaces incessantes. Le révérend Daryl Gray dit avoir retrouvé dans sa voiture une boîte qu'il a pris pour une bombe, mais qui cachait en fait un piton de 2 mètres de long. Il se passe vraiment quelque chose ici, dit aussi Cori Bush, ancienne meneuse des manifestations de 2014. Elle aussi, elle raconte avoir échappé à plusieurs tentatives de meurtre, une voiture qui lui fonce dessus, une balle qui traverse son pare-brise, sa maison mise à sac. Les journalistes d'AP se gardent bien de tirer une quelconque conclusion à la place des juges, mais Cori Bush, elle n'hésite pas à accuser des militants racistes, des suprématistes blancs proches des milieux policiers, de vouloir réduire au silence ce qui perpétue encore 5 ans après l'esprit de Black Lives Matter.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture.